BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme, aujourd'hui, tout miser sur le management horizontal. D'abord, est-ce que c'est pas que des belles paroles? Et ensuite, comment est-ce que ça peut bien marcher? On posera la question à la DRH de la semaine, Anna Escandre, chez Tom et Josette, le spécialiste des crèches intergénérationnelles. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne.
Bonjour Erwan, et aujourd'hui c'est l'avocat Mathieu Valence qui va clarifier un point sur les heures supplémentaires. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Dans notre focus, on parlera de transformation du management avec l'évolution des mentalités et des attentes au travail. Nous serons avec Julien Dreher, auteur de Tous Manager, et puis la carte blanche de Stéphane Moriot qui va nous dire comment la direction doit faire aussi correctement pour attribuer les promotions. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Le management horizontal, mythe ou réalité, c'est justement le sujet dont on va débattre et discuter avec notre invité DRH de la semaine. Bonjour Anna Escandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, DRH de Tom et Josette, spécialiste des micro-crèches intergénérationnelles. On va revenir sur le concept. Mais d'abord, chez Tom et Josette, vous vous revendiquez d'un management horizontal. C'est quoi concrètement ?
Ben, c'est réinventer des structures qui, historiquement, sont assez hiérarchisées dans le domaine de la petite enfance. Nous, on pense que tous les talents au sein des crèches sont valorisables et toutes les pros ont leur mot à dire. Mmh. Et donc, on a dans chacune de nos crèches des organisations très horizontales et même au sein de la structure globalement, le siège social est une équipe parmi les autres et on est au service des crèches et non l'inverse.
Et alors, une crèche horizontale, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de direction? Tout le monde fait ce qu'il veut?
Il y a une manager, mais chacune des voix est entendue au même niveau que les autres. Donc, il y a des responsables de crèche.
Et quelqu'un tranche à un moment donné.
S'il n'y a pas consensus, mais le consensus est cherché a priori à chaque fois.
C'est vraiment disruptif aujourd'hui ce type de management par rapport à ce qu'on connaît ou pas? Parce qu'on a quand même la sensation que même dans les grandes boîtes, en tout cas les moyennes entreprises, on change un petit peu la formation très pyramidale, très hiérarchisée du grand patron qui prend des décisions. On essaie quand même dans les petites structures aujourd'hui d'avoir plus de contact avec ces équipes.
Ben oui, en fait, historiquement, le milieu médico-social est un peu à la traîne sur les innovations sociales. Et comme ce sont des métiers les professionnels ont de grandes responsabilités puisqu'elles s'occupent des tout-petits, c'est des domaines dans lesquels on est certainement un peu plus frileux. Mmh. Nous, on réussit à faire l'exercice d'un management horizontal, d'une croissance partagée par toutes les équipes. Elles participent avec nous au développement de la boîte et ça nous montre qu'on a raison de fonctionner comme ça. On est en pleine croissance et dans un milieu dans lequel on a du mal à recruter, le monde de la petite enfance, qui est un milieu assez pénurique. Nous n'avons pas de problématique de recrutement et de fidélisation des équipes à notre projet.
J'allais y venir. C'est justement ce qu'on constate à travers la structure que vous avez développée et les retours qu'on peut avoir. Vous êtes devenu une espèce de bouée de sauvetage, de planche de salut pour des professionnels qui aujourd'hui, dans ce milieu-là de la petite enfance, en fait, avaient juste envie d'abandonner parce qu'il y a des problèmes structurels. Et ils ont découvert Tom et Josette, en tout cas pour certains d'entre eux, et se sont dit, en fait, non, je vais continuer, mais plutôt vers ce type de structure-là.
Exactement. Moi, j'ai fait passer énormément d'entretiens d'embauche ces dernières années. J'ai rencontré énormément de professionnels hyper talentueuses qui sont prêtes à abandonner aujourd'hui leur métier, qui sont des métiers passion et tellement essentiels pour la société, quand même, je le répète. Et au contact de Tom et Josette, heureusement, c'est des pros qui sont restés. J'ai l'exemple en tête d'une de nos pros, Coralie à Lyon, qui voulait arrêter, a découvert...
À cause de problèmes de management ?
À cause de problèmes structurels. Ouais. Ce sont des métiers assez difficiles, avec des moyens pas toujours alloués aux bons endroits, et toujours plus d'enfants, et toujours plus de parents stressés parce qu'ils veulent trouver des modes de garde. Donc, sous pression, parfois des organisations qui ne donnent pas les moyens de pouvoir faire ce qu'il faut. Et non, ben, j'ai des super témoignages. Je vous disais Coralie qui du coup a retrouvé le goût de la petite enfance. Et je crois que le monde de la petite enfance a de la chance d'avoir conservé ces pros-là.
C'est donner de l'autonomie aussi à ces professionnels, plus que dans des structures plus traditionnelles où voilà, c'est encore assez pyramidal dans l'organisation.
Exactement. Au lieu de saucissonner les métiers, de les segmenter au maximum pour être le plus efficace, non, là, les pros, elles font tout et ça donne du sens, en fait, à toute sa journée, à ses semaines, à ses mois. Ouais. Nous, on a vraiment à cœur qu'elles s'occupent de toute la vie de la crèche et qu'elles prennent les décisions qui vont les impacter.
Est-ce qu'il y a des bonnes idées donc, qui viennent des gens du terrain qui sont, que vous avez décidé de, bah, oui, de mettre en avant parce que ça fonctionne bien, c'était des bonnes idées?
Ben, c'est les meilleures idées qui viennent du terrain, en fait. Enfin non, mais ça semble logique ce que je vous dis, mais ça n'est pas partout. Mais les pros, elles savent bien mieux ce qu'elles font auprès de l'enfant que moi, DRH, qui vais leur dire comment faire leur métier.
Et qu'est-ce qui est innovant, novateur chez Tom et Josette ?
Nous, ce qu'on fait, et là qui fonctionne vraiment, vraiment très bien, c'est qu'on fait participer les professionnels au développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en plus de leur temps de terrain auprès des enfants, elles vont participer à des fonctions transverses de la boîte. Donc, sur l'accueil des familles, le recrutement, l'aménagement des crèches. Et donc, par exemple, moi, j'ai une équipe de 8 auxiliaires de puère qui travaillent avec moi au quotidien sur tous les recrutements. Donc, elles font passer les entretiens. Et vraiment, elles sont très fortes, en fait. Et elles voient des choses que moi, je ne vois pas. Donc, ça a beaucoup de sens. Elles sont meilleures que moi à certains endroits. Donc,
Ça crée une complémentarité.
Bah oui.
Vous, dans vos missions RH, est-ce que cette organisation-là, elle change fondamentalement les choses ?
Ouais, elle demande juste un peu d'adaptation en termes d'organisation, mais sinon, enfin en fait, moi je suis hyper inspirée par elle, donc ouais. C'est super bien.
Et double atout puisque donc vous, Tom et Josette, ce sont des crèches intergénérationnelles. Vous travaillez avec les EHPAD. Vous mettez à contribution aussi les travailleurs de ces structures-là qui sont disponibles, qui sont intéressés par votre projet.
Exactement. En fait, les métiers de la petite enfance sont un peu en tension. Les métiers du prendre soin, de toute façon, sont en tension. Et donc, quand on vient s'installer dans des EHPAD ou des maisons de retraite, on vient agrandir la famille du prendre soin, des soignants, et donc proposer des activités où justement les soignants, les personnes âgées vont venir contribuer à ce projet, ces lieux de vie où les générations se rencontrent. Et on va donner aussi par ricochet du sens aux pros qui s'occupent des personnes âgées. Par exemple, on a ouvert une crèche à Albi il y a quelques mois et la directrice qui met normalement 8-10 mois à recruter son équipe, elle en a mis 2 parce qu'il y avait le projet de la crèche à l'intérieur et que les animateurs étaient super motivés pour rejoindre le projet parce qu'il y avait la crèche.
Vous parlez de recrutement, cette année elle va être aussi importante parce qu'en 2024 vous voulez doubler les effectifs. Ça c'est un signal quand même positif à ceux qui sont un petit peu désespérés et qui se disent peut-être là, pourquoi pas tenter Tom et Josette.
Exactement. On ouvre une petite dizaine de crèches à la rentrée de septembre. Ouais. On va donc recruter une trentaine de professionnels de la petite enfance. On lance les recrutements maintenant avec toute la team de professionnels de la petite enfance qui vont faire les recrutements.
Dans toute la France ?
Dans toute la France, oui.
Ouais. Combien de villes ?
On a 8 crèches, 8 villes différentes. Île-de-France, Bretagne, sud de la France.
On retrouve les détails, j'imagine, sur votre site, les annonces.
Exactement.
Et on postule en mettant Happy Boulot dans l'objet. Comme ça, on saura que ça sera grâce à nous.
Exactement.
Anne Escandre, il nous reste une petite minute. On vous amène. Marianne est avec la boîte du DRH. Je vous invite à pioter un papier, une phrase à compléter. C'est l'exercice traditionnel dans cette émission pour essayer de savoir un peu mieux quel DRH vous êtes. Je vous laisse nous la lire.
Dans ma boîte, je valorise les professionnels de la petite enfance qui font un travail merveilleux tous les jours.
Parfait. Allez, on prend un dernier papier.
Un deuxième.
Ouais.
Ok. Dans ma boîte, les managers sont... les managers, pour moi, ce sont des libérateurs de talents. C'est-à-dire que c'est à eux de faire révéler les talents qu'il y a chez chacun des personnes qui le managent.
C'est leur mission.
Pour moi, oui.
Ouais, ça, c'est un bon manager.
Ouais, je pense.
On parlera des managers un peu plus tard dans cette émission avec l'auteur Julien Dreher qui justement a écrit ce livre aux éditions Erol, Tous Managers. Donc on va continuer à parler de ça dans un instant. Merci d'avoir joué le jeu, Anna Escand, DRH de Tom et Josette. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on rejoint tout de suite l'avocat en droit social, Mathieu Valence, pour répondre à cette question. J'ai un salarié cadre qui me réclame des heures supplémentaires. Je croyais qu'elles n'étaient pas dues.
Je vous confirme qu'un cadre peut parfaitement réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Pour ne pas lui en verser, il faut que ce cadre soit soumis à ce qu'on appelle un dispositif de forfait en jours sur l'année. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un dispositif qui doit être prévu par le contrat de travail du salarié et autorisé par un accord, soit accord d'entreprise, soit une convention collective. Et cet accord doit respecter un certain nombre de garanties pour s'assurer de la bonne charge de travail du salarié, la compatibilité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle notamment. Attention, parce que si l'employeur n'a pas prévu le forfait en jour dans le contrat de travail du salarié ou n'a pas respecté les garanties de cet accord, des entretiens annuels notamment, alors le forfait en jour est invalide. Et la conséquence est très lourde puisque le salarié va pouvoir demander l'invalidation du forfait jour et recalculer toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures. Donc attention à la validité de ces dispositifs.
Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
On parlait de la réinvention du management en début d'émission avec la DRH de Tom et Josette. Tous les avantages du management horizontal, ses atouts. On va continuer à parler de ça, mais aussi beaucoup d'autres choses avec notre prochain invité. Bonjour Julien Dreher.
Bonjour Erwan.
Merci d'être dans Happy Boulot, entrepreneur, auteur du livre « Tous managers ». Pour vous, l'horizontalité, d'abord, c'est la clé du succès aujourd'hui ou pas ? Parce qu'on a l'impression que beaucoup d'entreprises essaient de s'inspirer de ça, que ça soit moins pyramidal, qu'il y ait moins de hiérarchie, le directeur, le grand patron qui prend toutes les décisions sans connaître le nom de ses salariés. Aujourd'hui, c'est en train de changer.
Ouais, alors moi je suis pas toujours très à l'aise avec ce terme d'horizontal, mais je vois très bien.
Et parce qu'il est galvaudé, c'est ça ? Non,
alors,
parce
qu'on l'utilise. Il est galvaudé et sources. Aussi il a un risque, c'est le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le risque du no management, du aucune hiérarchie, aucun pouvoir, tout se vaut. Et je pense que c'est pas forcément un service à rendre aux salariés aujourd'hui, qui sont la plupart, salariés et managers qui sont aussi un peu victimes du modèle.
Donc quoi, on trouve un juste milieu quand même ?
Non. Je crois qu'on peut dire qu'il faut abandonner le modèle pyramidal hiérarchique tel qu'on le connaît dans nos entreprises depuis maintenant plus de 100 ans. Et quand on dit ça, on donne le vertige. Et surtout, ça nous fait repenser dans quel contexte il a été inventé, un contexte de contrôle, un contexte de défiance. Et aujourd'hui, évidemment, le modèle managérial hiérarchique pyramidal est le meilleur modèle si on a un modèle de standardisation et de contrôle de ses salariés. Si ce n'est pas le cas, on doit réinventer son management.
Mais là, c'est en train d'éclater en ce moment. Depuis le Covid, on voit bien que les attentes des salariés, notamment des moins de 30 ans, moins de 35 ans, ça change totalement. Et donc, s'il y a bien une période de réinvention du travail, c'est maintenant.
C'est maintenant. J'aurais été fier de vous dire que j'ai essayé avec ce livre de créer un cadre un peu théorique pour créer un petit peu cette alternative au management hiérarchique. En fait, je ne fais que accompagner ou je ne fais que formaliser la réalité des dynamiques qui se passent dans l'entreprise, c'est qu'il y a un mouvement d'autonomisation très fort. Et c'est pour ça que je dis de multiverticalité ou de multi-hiérarchie. C'est comment finalement on va décomposer ces services managériaux pour les réinventer et remettre tout un tas de hiérarchies par rapport à des problèmes qui se posent dans les entreprises. Bon. En s'appuyant, et ça c'est le point clé, sur l'implication de tous, et c'est un peu le sens de tous managers.
Bah oui, c'est ça.
Tout le monde est capable de prendre des décisions à son niveau, tout le monde est capable d'aider son collègue ou tout le monde est capable de prendre des décisions qui le concernent.
Et je voudrais quand même commenter le sous-titre du livre. Renoncer à la subordination pour libérer la coopération de l'entreprise. Moi ce que je comprends, c'est que même quand on n'est pas manager, on peut manager ou en tout cas on peut s'auto-manager d'une certaine manière.
Alors on peut s'auto-manager. On peut s'auto-manager, mais on peut aussi manager des sujets. On peut manager des sujets si l'entreprise fait bien son travail de bien découper, identifier et clarifier des sujets qui peuvent être tout simplement un sujet très précis opérationnel, un sujet technique ou un sujet de vie au travail. À ce moment-là, elle rend plus accessible tout simplement la participation du plus grand nombre sur des responsabilités managériales. Et je pense que, pour le coup, les salariés attendent ça.
Donc, déléguer aussi.
Donc, c'est vraiment un effort de délégation et de décentralisation ou de distribution de la responsabilité.
Ouais. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a des exemples concrets qui nous permettent de dire oui, ça fonctionne pour rassurer aussi les patrons à qui on va dire il faut déléguer, ceux qui ont la phobie et qui veulent tout contrôler.
Ouais, alors ça, évidemment ça marche et je cite, c'est la deuxième partie du bouquin où je cite un petit peu quels sont les patterns, les marqueurs qu'on retrouve dans ces entreprises qui ont décidé de se lancer dans l'alternative. Ça marche sur trois grands types de boîtes aujourd'hui. Les boîtes de la tech historiquement, la Silicon Valley, Google, Netflix, Buffer, Alan en France, par exemple, tout simplement parce que la tech est incompatible avec ce management bureaucratique hiérarchique, parce que les temps de décision sont beaucoup trop longs, ouais, et qu'on a besoin d'impliquer totalement les développeurs sur la prise de décision. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est des boîtes qu'on appelle un peu militantes, qui pour le coup rejettent le modèle hiérarchique comme un modèle féodal. On va retrouver toutes les entreprises qu'on appelle Opal, en référence à Reinventing Organization, Holacracy et tout ça. Et puis tout un tas de PME, et moi c'est un petit peu mon quotidien, de voir tout un tas de PME qui ont une idée, se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ne veulent pas reproduire le management, et donc réinventent d'une feuille blanche le management en impliquant tout le monde, en construisant l'ensemble des décisions.
Pour autant, Julien Dreher, alors, votre livre, c'est Tous Managers. Est-ce qu'on est tous faits pour manager ? Il y en a qui ne veulent pas.
Ouais, alors je fais souvent une allusion. Je pense qu'en fait, on manage dans nos vies privées, dans nos vies personnelles, des choses.
Mais parce qu'on n'a pas le choix.
Ben oui, parce qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on peut le faire.
Oui, mais on n'a pas forcément envie de le faire.
Non, alors on n'a pas envie parce que tout simplement, le modèle nous a indiqué que ce n'était pas notre responsabilité.
Oui. Vous pensez?
Et moi, ce que je vois, c'est que dans tous les lieux où on fait ce mouvement-là, en fait, il peut y avoir de la résistance ou des réticences au début, mais très vite, les gens sont très contents de choisir leur congé, au moins de choisir leurs horaires de travail. Le sujet sur le télétravail est clé. Vous en parliez tout à l'heure. les gens ont envie de choisir leur rythme de vie, leur vie privée ou leur vie professionnelle.
Et moi, je pense quand même. Enfin, je aussi vois des exemples dans les entreprises de personnes à qui on a dit, tiens, tu vas être manager, parce que ça fait 10 ans que t'es dans la boîte, que on pense que tu as les compétences et on veut te donner les clés. Tu vas manager une équipe de 5 personnes. Mais on n'a pas forcément envie. Peut-être qu'on ne fait pas ce métier pour manager.
Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme de management, parce qu'aujourd'hui, la charge managériale est tellement concentrée sur une personne, c'est que ça rend cette fonction, vous l'avez dit, totalement inaccessible ou totalement pas du tout séduisante. À partir du moment où vous faites ce mouvement de distribuer l'ensemble des charges managériales sur le plus grand nombre, en fait, d'un coup, ça devient beaucoup plus accessible et vous permettez à la diversité de vos salariés de s'impliquer, de prendre des responsabilités, aussi bien sur des jeunes qui peuvent, sur un sujet très précis, prendre des responsabilités sans pour autant prendre toute la charge du recrutement, du licenciement, des augmentations, des promotions, de régler des problèmes psychologiques, etc.
C'est vrai que le manager quand on est jeune, c'est un vrai sujet. On en parlera d'ailleurs bientôt dans cette émission. Quel conseil on peut donner à un jeune de 25 ans à qui la direction va très vite faire confiance et va dire, tiens, tu vas manager tes collègues parfois qui sont dans la boîte depuis 10 ans de plus, qui ont 30 ans de plus que lui? Pas simple,
mais moi je pense que cet exercice il doit être fait par cette personne avec son équipe, de se dire qu'à son niveau, qu'est-ce qu'il peut déléguer, qu'est-ce qu'il peut distribuer, qui veut impliquer. Il va peut-être pas impliquer tout le monde dès le premier jour, mais il peut identifier un certain nombre de tâches qui peuvent être tout à fait déléguées au plus grand nombre au sein de son équipe, et donc finalement rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile sa charge managériale.
Ce rythme-là de donner de plus en plus de tâches à droite à gauche, de déléguer, oui, c'est très bien. On voit que ça fonctionne aussi dans les boîtes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une multiplication des managers? Parce qu'aujourd'hui, on a des managers intermédiaires, des managers de proximité. En fait, on a toute une strate de managers. Attention à ne pas tomber dans on ne sait plus qui fait quoi et qui prend les décisions.
Alors clairement, et c'est le parti pris du bouquin, c'est de dire qu'il faut démultiplier le management et les managers sans ajouter, et c'est là où on rompt avec le modèle hiérarchique et pyramidal, sans ajouter de strates vers un management beaucoup plus distribué.
Le millefeuille du management, quoi.
Et finalement, on peut dire que le management, c'est la technique de résolution de problèmes. Mais des problèmes, il y en a plein. Et c'est des problèmes qui se posent sur le terrain. Et finalement, c'est les gens qui sont sur le terrain qui sont le mieux placés pour régler ça.
Eh ben oui. C'est l'APEC qui nous dit que 70% des managers aujourd'hui ont plus de 40 ans. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut rajeunir? Est-ce qu'on s'en fiche finalement de cette donnée?
Non, clairement, il faut rajeunir. Il faut diversifier de toute façon, parce que la prise de décision ne peut pas être faite par les personnes qui ont le même profil. Des quarantenaires... plutôt homme en général.
Oui, aussi.
Voilà. Et donc, il y a un enjeu de rendre plus accessible, notamment, je parlais des jeunes, mais aujourd'hui, pour comprendre si on a une clientèle assez jeune ou on a des équipes assez jeunes, je pense que quelqu'un de 25 ans aura autant de pertinence, voire plus, pour prendre des décisions à son niveau qu'une personne de 40 comme moi.
Ouais. La formation, c'est quelque chose d'important aussi. On n'en a pas trop parlé, mais il faut... savoir-faire. On n'a pas toujours les compétences innées.
Évidemment, tout ça, ça s'accompagne. Mmh. Tout ça, ça s'apprend. On peut le faire en lisant le livre, en lisant Tous Managers. Mais aussi, il y a tout un tas aujourd'hui de programmes. Ouais. On trouve plein de contenus sur YouTube, vous suivez aujourd'hui des gens qui vous expliquent ça. Mmh. Et moi, ce que j'essaye de faire aussi avec un podcast Tous Managers, c'est faire des retours d'expérience de personnes qui ont été dans ce cas-là et qui n'étaient pas managers et qui ont pris des responsabilités managériales, voilà, et qui partagent un petit peu leur expérience.
On vous suit aussi en podcast. Donc.
Exactement.
Julien Dreher, à retrouver sur toutes les, sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup, Julien.
Merci, Erwan.
D'avoir été dans Happy Boulot, entrepreneur et auteur du livre Tous Managers. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Stéphane Moriou, on vous retrouve. On est en plein dans les négociations annuelles obligatoires. Tout le monde veut des augmentations ou des promotions. Alors, comment faire pour promouvoir les bonnes personnes, Stéphane ?
Vous avez probablement observé ce phénomène étrange, à savoir que celles et ceux qui ont du talent pour manager vers le haut ne sont pas nécessairement celles et ceux qui en ont pour manager vers le bas. Pire, les premiers ont parfois plus d'avancement que les seconds. Alors, aux directions qui décident des promotions, je voudrais dire ceci. N'oublions jamais que les qualités utiles pour obtenir le pouvoir ne sont pas celles nécessaires pour occuper le pouvoir. Certains œuvrent et manœuvrent pour obtenir des rôles pour lesquels ils n'ont aucun talent. Or, vous ne rendrez jamais un leader bon par décret. Je ne conteste pas la nécessité pour un leader d'avoir de l'ambition. C'est un fait très humain. Plus on obtient, plus on désire. Je critique la dérive qui consiste à être dévoré par cette ambition. Les leaders qu'il faut faire évoluer sont celles et ceux qui font passer l'intérêt de leur équipe et de leur organisation avant leur propre intérêt. Et certainement pas celles et ceux qui, pour grimper, sont prêts à ramper, cirer ou lécher.
Happy Boulot, le labo RH.
Et Jeanne est à nouveau avec nous. On se retrouve en 4 minutes, Jeanne, avec notre invité aujourd'hui, le cofondateur d'Olivia.
Oui, le turnover, le burn-out, ce sont deux grands problèmes RH aujourd'hui. Et l'entreprise que l'on reçoit résout ces deux fléaux.
Ah,
Imad
enfin.
Wakidi, bonjour.
Super,
bonjour.
Vous avez cofondé l'entreprise en 2020 à Montpellier.
Tout à fait.
Quelles sont les solutions que vous proposez exactement?
Tout à fait. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'aider les DRH à adresser le sujet de la santé mentale dans leurs organisations. Effectivement, une mauvaise santé mentale peut induire justement à du burn-out et peut mener à du turnover également. Donc aujourd'hui, 46% des salariés réfléchissent à partir ou sont en recherche d'emploi. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup.
Et ça, c'est pas un chiffre que les DRH ils aiment.
Parce que le turnover, ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un dispositif qui permet à chaque collaborateur de trouver un accompagnement psychologique avec un psychologue en visio directement sur une application et aussi avoir accès à une panoplie d'outils. Donc des contenus vidéo, audio ou des exercices interactifs pour progresser en autonomie sur des sujets de santé mentale. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la motivation, ça peut être l'engagement, ça peut être l'estime de soi, le stress.
Donc c'est le patron qui paye en fait le service que vous proposez et qui le met à la disposition des salariés qui ensuite peuvent l'utiliser.
Tout à fait.
L'objectif c'est que voilà, ça leur donne envie de rester dans la boîte.
Exactement. Donc aujourd'hui, le coût d'un turnover, par exemple, peut s'élever à 45 000 euros. C'est le coût de la formation d'une nouvelle personne, le coût du recrutement.
C'est par personne ?
Par personne,
ouais. Ah oui.
Donc ça peut.
Donc il y a quand même un argument économique aussi. Hein. La santé mentale, bah oui, c'est très bien, mais aussi ça va peut-être me coûter moins cher de mettre en place des solutions en faveur de la santé mentale. Et ça.
Tout à fait.
Ça, c'est important quand même pour les patrons.
Tout à fait. Et donc nous, on a la chance aujourd'hui d'accompagner plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs en France auprès de clients comme Vinci, SNCF, Air Liquide et beaucoup d'autres grands comptes. Et ce qu'on a observé, on a réalisé une étude sur à peu près 5000 salariés et on a remarqué qu'on diminue le turnover de 5 points auprès des collaborateurs qui sont accompagnés par un psychologue. On a comparé le taux de turnover des collaborateurs qui sont accompagnés avec un taux de turnover des collaborateurs qui ne le sont pas.
Ah oui.
Et dans le santé mentale, du coup, est-ce que c'est un argument d'attractivité en entreprise aujourd'hui ? Est-ce que c'est un véritable argument pour les personnes qui veulent entrer dans une entreprise, savoir qu'elle prend soin de la santé mentale de ses...
Très bonne remarque, parce qu'aujourd'hui, 86% des salariés déclarent que l'amélioration de leur santé mentale renforcerait leur fidélité à leur entreprise.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, les salariés sont demandeurs de plus de dispositifs.
Mais ça, comment on peut le savoir quand on postule? On ne sait pas si l'entreprise elle a les dispositifs, sauf si elle communique dessus.
Si, bien évidemment, nous, nos clients communiquent sur les dispositifs qui sont en place, notamment c'est un avantage.
Dès l'entretien d'embauche.
Dès l'entretien d'embauche, c'est un avantage salarié avec lequel l'entreprise peut, dont l'entreprise pardon, peut être fière au moment de l'embauche.
Vous voulez couvrir 1 million de salariés d'ici à 2027, donc c'est une grosse ambition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, il y a sûrement un tri aussi qui va être fait parce qu'on voit que la santé mentale, c'est devenu presque une mode. Mmh. Alors c'est très bien, il y a beaucoup de services qui sont mis en place. Comment vous allez vous différencier et réussir à trouver de la croissance ?
Tout à fait. Donc nous, en fait, ce sur quoi on va se focaliser, c'est juste l'accompagnement individuel des collaborateurs. C'est là où on est très 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 fort. Et donc on a cette ambition qui reste finalement comparé à l'enjeu global de la santé mentale en France assez minime, puisqu'il y a encore beaucoup plus à faire et il faut qu'il y ait plusieurs acteurs pour porter cette voix qui est très importante.
Merci beaucoup, Imad Wakidi, d'être venu dans Happy Boulot, cofondateur d'Olivia. Merci, Jeanne.
Merci à vous.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Soyez au rendez-vous. Et si vous avez raté un bout de cette émission, vous la retrouvez, bien sûr, en podcast et en replay sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.